Je t'avais dit, l'AJT du local, c'est à 12h15.
Oui, mais moi, j'avais noté 18h15.
Bah, heureusement, ça passe aux deux.
Ce matin, en marchant vers la radio, j'ai croisé un groupe de lycéens. Ils riaient très fort. Je me revois à cet âge et je pense que je riais si fort aussi pour me protéger parfois de quelque chose, me protéger du monde. Puisque là, par exemple, il y en avait un qui riait un peu moins que les autres. Un genre de rire qui essaie de suivre la cadence mais qui sonne un peu à côté. Et je me suis demandé à quel moment on commence à s'effacer pour appartenir au groupe. À quel moment un rire devient un masque, une armure, une façon de dire « je suis là, moi aussi, laissez-moi tranquille ». Le harcèlement, ce n'est pas toujours des insultes ou des coups, c'est parfois ce silence-là. C'est ce qu'on ne dit pas, ce qu'on laisse passer pour ne pas faire d'histoire. C'est ce qui se répète tous les jours, dans la cour, dans les couloirs, dans les regards. Et à force de se répéter, ça devient un décor, un bruit de fond, un bruit qu'on finit par ne plus entendre. Alors comment le raconter, ce bruit-là? Comment le mettre à nu, sans accuser? Comment donner des visages à ce qui, souvent, se cache aussi derrière le nôtre? C'est le pari du groupe, déjà, et d'Antoine Meunier que je reçois aujourd'hui. Avec tous les jours, ils imaginent un procès du harcèlement scolaire, un procès pas comme les autres, où le coupable est absent, où l'on ne juge personne, mais où l'on essaie de comprendre. Deux comédiens, 19 personnages, un tribunal fictif et de vrais témoignages des élèves, des profs, des parents, des psychologues, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, croisent cette violence ordinaire. C'est un spectacle fort, drôle parfois, percutant souvent, je crois, un spectacle qui met des mots là où il y a d'habitude des silences et qui nous rappelle que le harcèlement ne naît pas tout seul, qu'il s'infiltre dans nos gestes, dans nos rires, dans nos petites lâchetés quotidiennes. Alors aujourd'hui, on va parler de ça avec Antoine Meunier, de ce théâtre qui écoute avant de juger, de ces histoires qui font écho à la nôtre et de cette question qui plane tout au long du spectacle. Peut-on juger le harcèlement sans accuser personne? Oui, votre émission quotidienne commence, c'est l'AJT du local. Et puis dans cette émission aussi, on changera d'univers ensuite, mais pas tant que ça finalement, parce que parler du harcèlement, c'est aussi parler du corps, du regard des autres, de la place qu'on occupe. Et justement, Noé et Corentin en service civique à l'autre radio sont partis tendre leur micro au Mayennais pour parler du corps autrement, à travers le sport. Le sport, c'est quoi pour vous, qu'on le pratique avec passion ou qu'on le regarde de loin, qu'il soit un plaisir, une contrainte ou un équilibre? Le sport dit souvent quelque chose de nous, je crois. Et puis voilà, on terminera cette émission avec Priscilla et sa chronique grinçante, piquante, qui nous parle de justice, de droit, de nos petits travers de société, toujours avec ce ton bien à elle. Parce qu'il faut savoir rire aussi, surtout le lundi, pour bien commencer la semaine. Bonjour à vous qui êtes là, quelque part, dans une voiture peut-être, coincée dans les embouteillages ou déjà bien arrivée. Bienvenue sur l'autre radio, bienvenue dans cette parenthèse du quotidien, cet endroit où on essaie de comprendre un peu mieux le monde sans forcément avoir de réponse. Et pour poser des questions, eh bien, il faut un invité, ça tombe bien, il est avec nous. Pour ne pas le faire attendre, je vous propose de passer à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'AJT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors comment parler du harcèlement scolaire sans désigner de coupables, sans simplifier les causes, sans moraliser? La compagnie sartoise Groupe Déjà relève ce défi avec la pièce Tous les jours, une pièce singulière qui imagine un procès mais pas comme les autres, c'est celui du harcèlement lui-même. Alors on va retrouver sur scène deux comédiens, 19 personnages, une écriture documentée, nourrie de témoignages réels. Ça va se passer sur la scène du théâtre L'Entracte ce mercredi 5 novembre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Antoine Meunier, co-auteur et comédien du spectacle. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors, pour commencer, j'ai envie de te demander, comment est-ce qu'est née l'idée de ce procès du harcèlement? Qu'est-ce qui, pour vous, rendait cette forme théâtrale pertinente pour aborder le sujet? J'imagine qu'on se penche longuement avant de donner une forme à ça.
Ouais, nous, on a croisé ce sujet un peu par hasard. On répond souvent à des commandes d'écriture théâtrale, et là, en l'occurrence, c'est un collège à Saumur qui nous a demandé d'écrire et de réfléchir sur le harcèlement scolaire. Nous, on n'aurait pas eu l'idée de faire le spectacle de ce procès du harcèlement scolaire. Donc on a réfléchi à comment traiter un petit peu cette histoire. C'est un sujet qu'on maîtrisait pas du tout à l'époque, hein. On est en 2019, 2020, tout ça. Nous demande de faire un spectacle sur le harcèlement scolaire, on connaît pas. On réfléchit et on a l'idée de faire le procès du harcèlement scolaire et de pas traiter une situation de harcèlement scolaire en particulier pour pas s'enfermer dans une histoire et pour essayer de prendre un petit peu de recul sur cette histoire de harcèlement scolaire. Et puis l'idée du procès, elle nous vient, elle nous anime bien parce qu'on trouve qu'elle est intéressante à faire, elle est intéressante à jouer pour nous et elle est aussi intéressante sur le fond du sujet puisque un procès, il faut évidemment l'expliquer, il faut le défendre à un moment donné ce harcèlement scolaire puisqu'il a un avocat et c'est lui qui est accusé. Donc il faut le défendre. Donc pour le défendre, il faut l'expliquer. C'est ça qui nous intéressait, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire pour traiter ce sujet et pas s'enfermer dans un truc et surtout ne pas être dans un spectacle où on dirait aux spectateurs harceler c'est pas bien, il y a les gentils, les méchants, etc. Et vraiment essayer de prendre du recul et de traiter ça avec toute la réflexion qu'il faut, quoi.
Et alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez mené un vrai travail d'enquête avant d'écrire le spectacle. Comment est-ce que vous avez procédé et comment justement vous avez axé ce travail pour que ça corresponde avec vos objectifs, avec ce que tu viens de nous dire, de ne pas tomber dans le cliché, de ne pas tomber dans le jugement un peu hâtif?
Bah nous, vraiment, on part de zéro. Hein. On n'y connaît vraiment rien. On est comédien, on fait des spectacles. On a fait un spectacle pour le public jeune, visé pédagogique, qui s'appelle Les Raccrocheurs, qui est sur le décrochage scolaire. Et vraiment, le harcèlement scolaire, on en est au niveau de réflexion zéro, c'est-à-dire on pense qu'il faut virer les harceleurs des établissements scolaires et qu'après tout se passe mieux, c'est-à-dire si on était loin, quoi, de l'histoire. Et donc on a commencé, on a réfléchi, on a fait comme tout le monde, on a lu des livres, on a rencontré plein de gens, on a fouillé sur le net, on a regardé des documents, et puis voilà, en faisant ce travail comme ça, en parlant avec des gens, en lisant des bouquins, en s'intéressant à la sociologie, la psychosociologie en pensée, etc. On a découvert tout un chemin de pensée, et puis tout ce qu'il y a autour du harcèlement scolaire, et puis on est devenu un petit peu, pas spécialiste, mais en tout cas, on maîtrisait un petit peu plus notre pensée, et notre pensée, elle a vachement évolué, en fait, en s'intéressant au sujet. Mais comme quand tu t'intéresses à n'importe quel sujet, au final, ta pensée, elle finit par évoluer. Et nous, c'était vraiment intéressant, quoi, pour nous de découvrir un petit peu tout ça, tout le discours autour des normopathes, les normopathes qui sont les spectateurs du harcèlement, qui voient les situations de harcèlement et qui disent rien. Sur le fait que les harceleurs, ils ont d'énormes problèmes d'empathie, ils ont du mal à gérer leurs émotions, sur le fait qu'il faut protéger les victimes, etc. Tout ça, on a découvert un petit peu, c'était extrêmement intéressant pour nous de découvrir tout ça.
Et alors, vous jouez 19 personnages à deux sur scène. Comment est-ce qu'on trouve la justesse entre la performance, l'émotion et surtout en tant que comédien, j'imagine que ça doit être vraiment éprouvant.
Éprouvant, non, c'est plutôt ultra amusant à faire, en fait. C'est vraiment génial à faire. C'est-à-dire qu'on a 19 personnages, la différence des personnages, elle se fait déjà en termes de costumes. C'est-à-dire qu'on a des suites à capuche, on en a un de chaque couleur pour chaque personnage. Ça, c'est très simple à comprendre pour les gens. Et après, les personnages, ils ont tous une espèce de voix, ils ont une tessiture de voix, ils ont des gestes, ils ont des manières de parler. C'est ça qui les différencie. Mais pour nous, c'est pas éprouvant. C'est juste un énorme kiff de passer de l'avocat général à président du tribunal, puis un témoignage, un expert. On bouge, on évolue sur le plateau. Pour nous, c'est hyper plaisant à faire. Et puis, on est dans un tribunal, donc il y a les avocats, donc c'est joué un peu grandiloquent, un peu, voilà, donc pour nous c'est du pur plaisir, quoi. C'est vraiment... Après, je te dis pas que ça n'a pas été éprouvant sur la création et le nombre d'heures qu'on a passé à répéter, mais aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, le spectacle, il a joué beaucoup, et là, pour l'instant, c'est plutôt du plaisir.
Et alors, on est dans un tribunal, mais le spectacle navigue quand même entre drame et humour, entre le grave et le décalé. Sur un thème comme celui-ci, est-ce que c'est compliqué au moment de l'écriture? Tu l'as dit, ça a été éprouvant à certains moments, l'écriture.
Ouais, le défi, l'écriture, elle a été éprouvante quand on a fait les trois premières semaines de recherche. On a dû regarder les documentaires et lire des livres, des témoignages un petit peu de gens à qui c'est arrivé. Le harcèlement scolaire, c'est quand même un sujet profondément dramatique avec des vies brisées, avec des gens que ça a marqué à vie. Donc toute cette partie-là, elle était vraiment effroyable. Nous, en plus, on est parents, donc tu te projettes toujours un petit peu dans ce truc-là, donc c'est quand même assez difficile. Et puis après, il a fallu qu'on prenne vraiment du recul pour arriver, non pas à rire du harcèlement, mais arriver à mettre du rire dans le spectacle, parce qu'on pense, on n'est pas les seuls évidemment, mais que rire, ça fait quand même partie du ça nous permet quand même de parler du sujet. On aime bien parler des sujets avec un petit peu de rire. Et ça, ça a été vraiment le défi. Comment on fait rire avec un sujet qui est profondément dramatique? Et je crois que c'est ce qui plaît aussi. Et c'est ce qui interroge aussi pas mal les jeunes. On joue beaucoup dans les collèges. Et on a eu un débat, c'est marrant, il n'y a pas longtemps là-dessus, où des jeunes ne riaient pas. Et on leur disait, mais c'est étonnant, là vous n'êtes pas en train de rire alors que c'était des blagues et tout ça. Et ils nous disaient, mais oui, mais on ne peut pas rire de ça. Enfin, on vient voir un spectacle sur le harcèlement scolaire. On pense dès le début qu'on n'a pas le droit de rire. Et c'est ça tout le défi en fait de l'écriture de ce spectacle, c'est que ben si en fait on a le droit de rire puisque ça nous permet à nous tous de prendre conscience du sujet et puis de souffler un petit peu et de dédramatiser un petit peu la chose, même si ça enlève en rien que le sujet il est profondément dramatique et qu'il y a des situations terribles quoi. Mais il faut en rire quoi, mieux vaut en rire que de s'en foutre comme on dit.
Et alors ça m'intéresse que tu parles de la place du spectateur, puisque est-ce que le construire cette pièce sous forme de procès, c'est aussi peut-être, tu vas me dire, un moyen de mettre le public dans cette place peut-être un peu de jury?
Ouais, en fait nous en plus le public il est partout, il est sur le côté, il est avec nous sur le plateau, il y a des jurés qui sont avec nous, qui sont à côté du président du tribunal, et puis il est en face, il est partout, donc comme ça on a une espèce de procès un peu intime. Enfin, tout le monde est un peu concerné, tout le monde a des spectateurs en face de lui. Et puis nous, on évolue comme ça partout et il y a une espèce de... C'est comme si on était dans une grande ronde, quoi. Et puis c'est assez intéressant pour nous, et je pense pour les gens aussi, de se retrouver en tant que juré, de se retrouver sur le plateau, d'être en face, de voir les gens qui réagissent et tout. Il y a toujours quelqu'un tu peux toujours voir quelqu'un du public et tu peux toujours voir un comédien partout, donc avoir la tête qui va partout, et ça, on pense que c'était intéressant aussi à traiter, quoi.
Et une place importante, du coup, de ce décor, en tout cas, la scénographie, elle est essentielle. Tu nous parles un peu de ce public qui est, en fait, très proche de vous. Il y a aussi ces sweatshirts suspendus. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce qu'on a l'impression, on a le sentiment, du coup, d'être dans une vraie salle d'audience?
Ouais, le décor qu'on a fait, à la base, c'est un spectacle qui jouait que dans les collèges et les lycées, enfin, en tout cas, dans les établissements scolaires, avec zéro décor, avec vraiment des tables... les tables que tu retrouves en salle de perme, les chaises, etc., etc. Après, en faisant ce spectacle, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait pas que ça parle que aux élèves et que en fait les adultes avaient quand même d'énormes leviers sur tout ça et qu'il fallait que ce soit vu par des adultes. Et comme c'est un problème de société qui concerne tout le monde, on a tous des enfants, des neveux, des nièces, des cousins. Enfin, je veux dire, le harcèlement scolaire, ça concerne absolument tout le monde. Donc là, on s'est dit qu'il fallait que ce soit vu par des gens et on s'est dit qu'on allait faire une version plateau, ce qu'on appelle une version plateau. C'est-à-dire avec un vrai décor de tribunal, et puis effectivement ces fameuses suites qui sont là au-dessus, qui sont comme les victimes qui regarderaient ce process passé, tu vois, ça pèse, ça met un truc un petit peu pas glauque mais pas loin, tu vois, ça met une espèce de pression à tout le monde. Il y a une trentaine de suites à capuche comme ça qui pendent au-dessus du public, au-dessus du plateau. Et puis ce décor de tribunal qui, mine de rien, est toujours un peu impressionnant. Enfin, un tribunal, c'est quand même toujours... il y a quand même toujours une espèce de pression quand t'as un décor de tribunal. Les tribunaux, c'est quand même des endroits qui sont un peu chargés. Et on a essayé de recréer un petit peu ça, un décor un peu chargé, solennel, tu vois. Un truc presque un peu un peu lourd. On est un peu sous pression, et puis après, on enlève un peu la pression. Mais on est quand même là pour juger le harcèlement scolaire, donc il faut quand même que ça ait un peu de... gueule, quoi.
Et alors, ce que j'aime bien, c'est que tu insistes sur le fait que le spectacle ne cherche pas à faire la morale. Sur scène, il y a malgré tout donc l'avocat de la défense qui plaide, lui, pour le harcèlement. Ça existe dans la pièce. Qu'est-ce que ce personnage-là vous permet d'explorer, justement, pour éviter peut-être d'être moralisateur et de tomber vous-même dans un certain cliché?
Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'il fallait. Ça nous a permis de défendre le harcèlement scolaire, mais pas de le défendre au sens il a rien fait, etc., mais au sens expliquons les mécanismes du harcèlement scolaire. L'avocat de la défense, bon, faut venir voir le spectacle pour voir ce qu'il dit, mais en gros, c'est lui qui replace un petit peu le harcèlement scolaire dans un contexte de société. Il reparle des spectateurs, il remet le en place en disant oui, vous piquez la jeunesse qui est violente, mais en fait la société elle est aussi violente. Il fait une espèce de Bon, après, c'est un personnage roublard, etc., évidemment. Enfin, c'est... Et puis, il défend le harcèlement scolaire, qui est indéfendable. Donc, c'est quand même compliqué. Mais on a essayé... En fait, c'est lui qui apporte un peu les clés à la fin de... Enfin, j'essaie de parler sans, sans trop en dire, parce qu'il faut quand même le voir, ce spectacle. Mais oui, en gros, c'est lui qui amène un petit peu les clés de compréhension à la fin. Il fait une espèce de synthèse de tout ce qui a été vu dans le procès d'avant, les experts, les témoignages, etc., etc.
Le spectacle invite à dépasser les préjugés. Quels sont, peut-être selon toi, les plus tenaces autour du harcèlement scolaire ? Toi, peut-être que en travaillant dessus, tu as aussi appris des choses que tu n'imaginais pas.
Et puis surtout, on ne l'avait pas intellectualisé, je crois. Et puis, puis tu vois, moi, j'ai grandi dans les années 90. L'harcèlement scolaire, personne n'en parlait, tu vois, ça n'existait pas trop. Donc, il y a des chamailleries d'adolescents, et puis c'est tout, quoi. Là, j'ai bien, mais a posteriori, j'ai bien compris qu'en fait, le problème, c'est la différence de l'autre. C'est ça qui est hyper malheureux, c'est que, en fait, on est tous dans des normes, on est tous des normopathes, tu vois, ça, c'est ce qui est dit dans le spectacle. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. C'est vraiment des sociologues et des gens qui ont travaillé dessus. Le problème, c'est une espèce de norme généralisée. Et puis, dès que tu sors de cette norme, que ce soit parce que tu es différent physiquement, que tu as des pensées différentes, que tu aimes des gens qui sont différents, etc. Et c'est là où il y a des risques de te faire harceler par des gens qui ne supportent pas les gens différents, les gens qui sortent de la norme et qui ne sont pas comme eux, quoi. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais tu vois, ce problème-là, il est dans la société, en fait. C'est-à-dire, c'est un copier-coller de ce qui se passe dans notre société d'adultes. Il se passe la même chose chez les enfants et donc il se passe du harcèlement scolaire.
Comment, t'en as dit quelques mots tout à l'heure, comment est-ce que réagissent les jeunes spectateurs quand ils voient la pièce? Et peut-être est-ce que vous avez aussi des retours de personnes concernées, d'enseignants ou de parents?
Au début, quand on leur dit qu'on va faire un spectacle sur le harcèlement scolaire, là, depuis quelques temps, ils sont un peu saoulés. Parce que c'est un sujet dont on parle énormément. Je pense qu'ils en ont un petit peu marre. Il y a un peu une contre-performance là sur cette histoire de harcèlement scolaire. C'est à tellement parler qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que ce problème-là dans les collèges et les lycées et les écoles. Or, il y a peut-être d'autres problématiques. Et parfois, les élèves sont un petit peu marre qu'on leur parle encore de harcèlement scolaire. Donc, ils sont un peu défiants quand on arrive en général. Ils sont un peu, si tu veux, ouais, c'est du théâtre, c'est sur le harcèlement scolaire. Ça va être vraiment, on va passer une heure horrible. Et puis après, quand ils voient comment on le traite et qu'on les prend pas pour des idiots, parce que vraiment, nous, on a essayé de pas prendre les spectateurs pour des idiots. Quand ils voient comment on traite ça, ben, ça va mieux, ils se détendent et ils se permettent de rire. Et puis ils voient que on essaie de parler comme eux, ils voient qu'on n'est pas en train de leur dire que les harceleurs, ils sont méchants et que les autres, ils sont gentils, que c'est pas manichéen, quoi. Quand ils voient ça, ils se détendent et en général, les retours, ils sont plutôt bons. Après, sur les retours qu'on a après le spectacle, donc c'est toujours des débats après le spectacle, on n'a pas tant d'élèves, de spectateurs qui nous parlent des situations de harcèlement, parce que il y a en général une centaine de personnes et que c'est compliqué de dire, bah, moi, je me suis harcelé, machin, etc. Ça arrive, hein. Mais c'est quand même pas la majorité, donc en général, on parle plus du spectacle. Par contre, ça nous est arrivé, oui, d'avoir des retours d'enseignants qui nous disaient, bah, ça a débloqué des situations, des gens sont venus nous voir, des gens ont exprimé des choses. Et puis, les retours qu'on a, c'est qu'on retourne souvent dans les établissements dans lesquels on est déjà allé. Ça, par exemple, c'est des retours qui sont assez... pour nous, ça veut dire quelque chose. Il y a des collèges, ça fait 4 ans qu'on y va. Donc, ça veut dire que le spectacle est un outil qui permet quand même le dialogue après entre les enseignants, enfin l'équipe pédagogique et puis les élèves. Moi, bon, après là... Malheureusement, avec la fin du pass culture et les moyens déplorables qui sont alloués aux établissements scolaires, on va beaucoup moins jouer dans les établissements scolaires, justement, puisque l'heure est à la suppression de tous les crédits.
Vous aurez justement, on vous retrouvera donc sur la scène du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe le mercredi 5 novembre à 19h, mais il y aura effectivement un temps d'échange peut-être avec le public, mais aussi avec les scolaires. Là, pour l'instant, vous pouvez encore le faire.
Ouais, pour l'instant, on peut encore le faire. Mais d'ailleurs, c'est parce que c'est l'Entracte qui organise ça et pas les collèges. Mmh. Oui, c'est grâce à la programmation de lieux qui sont implantés sur les territoires qu'on joue cette année. On voit bien la différence. Maintenant, c'est les saisons culturelles ils font ces efforts pour nous programmer, alors que l'année dernière, on avait encore des collèges et des lycées qui nous programmaient, mais ils n'ont plus d'argent. Donc, voilà.
C'est une thématique, effectivement, qu'on a pu aborder sur l'autre radio. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Antoine Meunier. On aura le plaisir donc de vous retrouver avec la pièce Tous les jours de la compagnie Groupe Déjà, ce mercredi 5 novembre à 19h. Donc, on invite l'auditeur de l'autre radio à venir vous découvrir sur scène. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
L'autre radio... Eh bien, c'est la vie qui passe en direct.
Juste avant de retrouver Noé et Corentin et leur micro tendu au Mayennais, on va s'offrir une respiration musicale, une voix écorchée, puissante, celle de Lola Young, avec son titre « Messie ».
Never.
Et maintenant, place à Noé et Corentin, nos deux services civiques à l'autre radio, partis à la rencontre des Mayennais pour parler sport, ou plutôt de leur rapport au sport. Écoutez.
Tous les ans, on se dit qu'on va se remettre au sport et chaque année, c'est la même rengaine. On tient deux, voire trois semaines, puis on raccroche vite les crampons. Ou bien on laisse traîner son abonnement à la salle de sport. Mais qu'en est-il de ceux qui ont pris le temps de pratiquer une activité sportive avec plus ou moins de régularité cette année ? Est-ce un moyen de lâcher prise après une semaine chargée ? Une simple distraction ? Ou un moyen de s'ouvrir au monde ? Pour les découvrir, nous sommes partis à la rencontre des Mayennais et Mayennaises. Ils vont nous raconter leur rapport au sport. On commence par une première question. Faites-vous un sport à Laval ?
Oui.
Lequel ?
Actuellement, je fais du foot. Ah bah, je vais à la salle, quoi.
Je vais à la salle.
Je fais un sport sur la balle qui c'est le hand.
Non.
Ah. Et pourquoi tu n'en fais pas ?
Parce que j'ai pas le temps.
Et qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer une pratique sportive ?
Les cours et le permis.
Oui, on joue à la pétanque.
Est-ce que c'est une bonne ville pour pratiquer un sport ?
À mon avis, ouais, parce qu'il y a des bons terrains et puis bah, y a une bonne équipe à Laval, surtout.
Okay. Et c'est quelle équipe ?
Bah, l'équipe Stade Lavallois.
Ok, bah, je suis pas dit si c'est pour ça.
Ouais, parce qu'il y en a plein et on a des différents choix variés.
Pour moi, oui, parce qu'il y a déjà il y a des aires de jeu. Il y a beaucoup de terrains libres pour les jeunes comme les plus vieux. Même les personnes âgées peuvent faire du sport en toute tranquillité, sans jugement.
Qu'est-ce que vous apporte le sport ?
Ça permet de contrôler mon poids. Okay. Et puis ça me permet de me libérer aussi et tout.
Okay, bah.
C'est un plaisir, c'est bien.
Faire des rencontres.
Okay.
Avec les personnes. Dont ma copine Léa.
Ok.
Voilà. Et
c'est un nouveau moyen quand même maintenant de faire des rencontres et d'avoir peut-être.
Ouais. Au lieu de faire des rencontres sur les réseaux, franchement.
M'a canalisé et tout parce que j'étais hyper actif et tout.
Pour moi, le hand, bah, ça a changé ma vie parce que ça m'a fait totalement changer de vision par rapport au monde. Mm-hmm. Qu'il y a plein de gens dans la même situation qui cherchent à se faire des amis parce qu'ils ont souvent fait des sports individuels comme le judo ou le karaté où on s'entraîne pour nous. Alors que le sport, c'est un sport collectif où on doit parler pour bien se comprendre et même se faire des amitiés plus tard.
Oui, en termes de... Tu vois, pour le corps, c'est bien, pour les relations, c'est bien, sortir, c'est bien, enfin tout ça, c'est bien pour la vie.
Ouais, du temps, du lien social, on prend l'air. En fait, on est une épicerie sociale de Laval.
Okay.
Et du coup, j'amène des bénéficiaires de l'épicerie. On sonde un petit peu les équipes, savoir ce qu'ils aiment le mieux. Et puis après, bah, voilà, mon équipe, moi, aime la pétanque, et moi aussi d'ailleurs.
On entend que dans une époque de plus en plus individuelle, le sport est une manière de se reconnecter à soi et aux autres. La salle de sport est de moins en moins synonyme de moments durs et éprouvants. Elle devient un symbole de lâcher prise et de bien-être. C'était Noé, votre hôte pour ce micro-trottoir, à la technique Corentin. À plus tard sur les ondes de l'autre radio.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Et nous voilà donc arrivés au moment de la chronique juridique avec Priscilla qui nous a rejoint dans le studio dans une sacrée tenue. Bonjour Priscilla.
Bonjour ma chère Margoloum. Et oui, je suis encore en mode Halloween, en mode démon, mode Satan, en mode le cornu. Le cornu, corne, vous avez compris ?
Oula, je sens que cette chronique va...
va être plus éclatée que mon cul après un chili très épicé. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je vais traiter avec l'impartialité qui me caractérise une question que tous les enfants du monde se sont déjà posée une fois. Pourquoi le déficit de la France, il est toujours en croissance ? C'est pas Wembanyama ? Humour, oui, c'est la carte que nous sortira le président Macron quand il ne sera plus au sommet de la République. Tous mes gouvernements recyclés avec des bras cassés, c'était une blague. C'était pour voir si le peuple français avait de l'humour. Ben, pas trop quand même. Hein. Faudrait penser à vous remettre en question, les pauvres, les Français. Aucun second degré. Tu m'étonnes qu'ils ne veuillent pas de la taxe Zuckman, le cher Macaron. Bah oui, sur les très hauts patrimoines, on va quand même pas taxer les seuls à comprendre les vannes de Manu. En fait, c'est devenu Manu Paillé hein, aux commandes du gouvernement. Situation politique, c'est compliqué. Ah, mais comme d'habitude, je digresse, alors que mon coach sportif aimerait tellement me voir dégraisser. C'est fou, hein, une voyelle près, tu satisfais un homme ou pas ? En même temps, tant qu'ils seront incapables de trouver le point G, je vois pas pourquoi je ferais des efforts sur les voyelles.
Priscilla, vous dérivez plus que la main d'un incel sur la cuisse de sa poupée gonflable.
C'est vrai. D'ailleurs, vous connaissez le modèle Priscilla ? Il est gonflant. Bon, ok, j'arrête. Voilà le véritable objet de ma chronique. Attention, c'est du gratiné. Peut-on faire un procès à ces gros darons ? Question fondamentale et question que se pose tous les jours Vincent Cassel quand il se regarde dans le miroir. Non, arrêtez de dire que Vincent Cassel est un sexe symbole, il ressemble à un boucher charcutier. Ouais, mais il a du charisme. N'empêche que si tu le croises dans la rue en pleine nuit, je change de trottoir. Mais même le trottoir, je pense, il change de trottoir. Donc, comme Vincent Casserole, vous pouvez, chère auditrice, être amenée à déposer plainte contre vos parents. On pense notamment aux multiples photographies inintéressantes pourtant publiées sur les réseaux sociaux par des parents soucieux de polluer la bande passante et de contraindre leurs amis et familles au fameux « Ah, oh, il est trop chou !» Mais depuis quand c'est un compliment? Un chou, c'est moche. Et puis quand tu le fais cuire, l'odeur, elle est dégueulasse. On dirait un pet retenu pendant tout un trajet en bus et que tu lâches en loose dès que tu sors. Vous voyez cette odeur, Margot Loom, comme une espèce de Madeleine de Prout. Alors si on ne peut rien faire contre les pets ronflants et trébuchants, concernant la diffusion de photos et vidéos sur le net, l'article 226-1 du Code pénal est on ne peut plus clair. Publier l'image de quelqu'un sans son consentement constitue une infraction. Il est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ne vous inquiétez pas Margot, votre profil OnlyFans n'est pas concerné si vous ne publiez que des photos de vous. Dans le cas d'un mineur, le Code civil et plus particulièrement son article 9 estime que son droit à l'image est protégé, indépendamment de l'intention de nuire. Avec la loi de mars 2023, les lignes sont encore endurcies. Elles stipulent que les deux titulaires de l'autorité parentale doivent donner leur accord pour toute publication représentant leur enfant. Il ne s'agit plus seulement de bon sens, mais d'une obligation juridique confirmée dans plusieurs affaires que la justice française a tranchées. Aïe, ça fait mal. Par exemple, en 2017, la Cour d'appel de Paris a donné raison à un père qui s'opposait à la publication de photos de ses enfants par son ex-compagne sur les réseaux sociaux. L'autorisation de l'autre parent ne peut être ignorée, surtout quand l'image est rendue publique. Le juge peut même interdire toute rediffusion. C'est également ce qu'on devrait faire avec la série Scène de ménage. On peut donc imaginer qu'un tribunal condamne un parent à verser plusieurs milliers d'euros à son enfant devenu majeur pour un préjudice lié aux photos d'enfance diffusées en ligne, alors qu'il était assis sur le pot ou tout nu dans son bain avec Pouet Pouet le canard. Miskine.
Mais pourquoi toutes ces interdictions?
Mais oui, pourquoi tant de haine? Tiens, encore une consonne. Dans les mots, je t'aime. Tant d'aime, trop de haine. Bon, ok, d'accord. Eh bien, Margot Loom, le but est de protéger les enfants. En effet... J'aime bien donner du « en effet », ça fait politicien qui s'y connaît alors que pas du tout. En effet, selon une enquête publiée sur caf.fr, et là c'est très sérieux, plus de 50% des photos retrouvées sur des plateformes pédopornographiques proviennent initialement de comptes familiaux grand public. Une réalité glaçante qui pousse les autorités à mettre en garde contre une mise en scène de l'innocence trop accessible. Elles attirent également des enjeux plus insidieux, vol d'identité, récupération des données de localisation, profilage numérique. L'exposition des enfants est rarement contrôlée par eux-mêmes. Bon, en même temps, ils ont déjà du mal à contrôler leur sphincter, alors leur vie numérique. Mais cette exposition peut leur coller à la peau pendant des décennies. Moralité, arrêtez de publier des photos de vos enfants. Publiez des photos de vos pieds. Ne me remerciez pas, tout plaisir est pour moi. Hormis la publication de photos, il est bien sûr possible de déposer plainte contre ses parents. Mais cela dépend de la nature des faits. Car il existe, l'immunité familiale. Non, ce n'est pas la recherche d'un collier qui te donne l'immunité lors du prochain feu de camp. Quoique, l'immunité familiale empêche les poursuites pénales pour certaines infractions commises entre membres d'une même famille, afin de préserver cette unité familiale, notamment en matière de vol par exemple. En revanche, les actes de violence, de par leur gravité, sont exclus de l'immunité familiale et peuvent faire l'objet de poursuites. Non, emmener son fils à l'école avec un sac à dos pas de patrouille n'est pas une violence punissable par la justice des hommes. La justice divine, en revanche. Attention les enfants! Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux en salopette à l'arrière d'une fourgonnette, mais non. Attention les enfants, pour être protégés, vous pouvez aussi signaler tout acte de maltraitance ou d'abus à vos instituteurs, à votre médecin. Bon, après si ton médecin c'est le Squarneck, force à toi. Dans certains cas, un mineur peut aussi demander son émancipation pour pouvoir prendre ses décisions tout seul. Ça exige qu'il ait de son intérêt, qu'il ne soit plus sous l'autorité de ses parents.
Donc c'est uniquement pour les majeurs.
Oui, Margot Loom. De toute façon, vous et moi sommes déjà des femmes très émancipées. Qui a dit trop? Pour terminer ma chronique, j'ai envie de retourner la question initiale. À l'instar d'une crêpe ou de la cellule de Sarko lors de la fouille hebdomadaire, si on peut déposer plainte contre ces gros darons, peut-on faire un procès à sa marmaille? Genre parce qu'on est déçu par ses enfants? C'est vrai, on passe un temps fou à les concevoir, pour la grossesse ou pour les démarches d'adoption. Et finalement, on se retrouve avec un enfant qui a la tête de Michel Houellebecq, ou pire, son intellect. Les parents investissent énormément dans leurs enfants, non seulement sur le plan matériel et financier, hein, vous en avez conscience Margot, mais aussi sur le plan émotionnel. Ils nourrissent souvent des rêves et des espoirs pour leur progéniture. Déjà qu'ils sachent épeler le mot progéniture. Sauf que d'avoir des enfants, c'est pas tout est bien qui finit bien. On n'est pas dans les contes de Gims. Je me tire. C'est vrai, quand tu appelles ton fils Jean-Eudes plutôt que Jason, forcément tu as des attentes importantes, qui ne sont pas satisfaites quand il décroche enfin son CDI comme équipier chez McDo. Eh bien, lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous, parents, nous n'avons pas le droit de déposer plainte contre nos enfants. Je sais parce que j'ai demandé à mon intelligence artificielle, un gars qui fabrique des pantins pour qu'ils deviennent des petits garçons. Il s'appelle ChatGPTO. Bon, ok, c'est pas ma meilleure vanne. Mais si vous n'êtes pas content, eh ben déposez plainte contre mes parents. L'humour de merde est génétique. Surtout quand ton père, c'est aussi ton grand-père. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla, c'était la chronique juridique. Et donc, à retrouver en podcast sur le site de l'autreradio.fr. À bientôt.
Radio.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Antoine Meunier d'avoir passé ce moment avec nous pour nous parler de la pièce Tous les jours. Merci à Noé et Corentin et puis merci à Priscilla. Votre émission se termine. Sa musique originale est signée Lénaïk Folzour. Mais ça continue sur les ondes de l'autre radio ce soir à 19h cap sur un autre univers avec Solénoïde. C'est un vrai voyage sonore tissé de musique planante, cinématographique, parfois ethnique, le genre d'émission où l'on ferme les yeux où on se laisse embarquer, une heure de son rare, hypnotique et sans frontières. À 20h, c'est le moment de découvrir ce que notre programmateur écoute quand il n'est pas derrière la console, des pépites, des coups de cœur, des surprises. Bienvenue dans la discothèque du programmateur à 20h, une playlist taillée sur mesure pour les curieux de l'autre radio. Et puis, à 21h, on lâche prise avec l'aléatoire, une émission qui porte bien son nom, où tout peut arriver dans un joyeux mélange de genres, de sons et d'idées, parce que sur l'autre radio, la surprise fait partie du voyage, bien sûr. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. On quittera les salles d'audience pour retourner deux siècles en arrière à Laval, en pleine révolution. Avec Jean-Luc Broudin, on parlera de Salvé Regina, son premier roman qui raconte l'histoire à hauteur d'homme, entre foi, peur, mémoire, une plongée dans la révolution depuis chez nous. D'ici là, prenez ce lundi comme il vient et s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ils en ont assez entendu, non ?
Oui, mais ils reviendront, je te parie.